Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vogel Podcast, le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez-nous chaque mois pour tout savoir de l'actualité du droit économique. Disponible sur toutes les plateformes, notre conseil du mois décrypte l'actualité du droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation et du droit européen des affaires. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vogel-vogel.com. Bonne écoute! Comment éviter la rétroactivité des sanctions civiles ou administratives plus sévères en droit des pratiques anticoncurrentielles? La répression des pratiques anticoncurrentielles devient de plus en plus rigoureuse. Une pratique anticoncurrentielle peut aujourd'hui faire l'objet d'une double peine. Administrative d'abord, sous forme d'amende prononcée par l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne. Civile ensuite, à travers les dommages et intérêts accordés aux victimes des pratiques. Une double peine à minima, parce que des peines complémentaires peuvent s'y ajouter. La nullité des contrats ou des clauses en cause, d'éventuelles sanctions pénales en cas de participation personnelle frauduleuse et déterminante des personnes physiques à l'infraction, et enfin, l'atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. Si l'on s'en tient à la double peine principale, résultant du cumul du public enforcement et du private enforcement, elle s'est sensiblement aggravée ces dernières années. En matière d'amende, le communiqué « Sanctions » de l'Autorité de la concurrence du 30 juillet 2021 conduit mécaniquement à quasiment doubler le montant de l'amende encourue, voire plus. Le montant de l'amende résulte en effet, traditionnellement, de l'application au chiffre d'affaires concerné par l'infraction d'un pourcentage de gravité multiplié par un coefficient de durée avec des facteurs minorants et aggravants, le tout dans la limite d'un plafond de 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Le nouveau communiqué sanctions de 2021 aggrave les éléments de calcul. Le coefficient de durée traditionnel de 0,5 par an appliqué pour les années suivant la première année passe au coefficient 1, soit un doublement après la première année. Enfin, l'autorité peut désormais également infliger un droit d'entrée additionnel de 15 à 25% de la valeur des ventes. Le private enforcement n'est pas en reste. La directive de 2014, transposée en 2017, a facilité l'action des personnes s'estimant victimes de pratiques anticoncurrentielles. Elle a instauré une présomption de faute liée à la décision de l'autorité de la concurrence, une présomption de préjudice en cas d'entente horizontale, et une présomption de non-répercussion sur les clients de la victime du surcoût lié à la pratique. Une stratégie de certaines entreprises consiste à demander l'application du communiqué sanction à des faits antérieurs au 30 juillet 2021 et pour les demandeurs de réparation civile à appliquer les nouvelles présomptions instaurées en 2014 et 2017 à des faits bien antérieurs. Les entreprises mises en cause pour des pratiques anticoncurrentielles, se trouvent alors en grande difficulté car autorités et demandeurs cherchent à leur appliquer des règles de calcul des amendes et des dommages d'intérêt plus sévères qui n'étaient pas en vigueur au moment de la commission de l'infraction. Comment faire obstacle à cette double rétroactivité? Un premier combat consiste à s'opposer à la rétroactivité du mode de calcul plus sévère des amendes. Dans ce cas, la stratégie de défense tient en deux points. Il faut d'abord faire valoir le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères à propos du communiqué sanction. L'autorité considère que son communiqué peut être rétroactif dès lors qu'il n'est qu'interprétatif et qu'il ne constitue pas en soi une disposition législative. Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une interprétation jurisprudentielle dont le résultat n'était pas raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, ne peut s'appliquer rétroactivement. Contrairement à ce qui a pu être jugé à propos de l'ancien communiqué de 2011, le nouveau coefficient de dissuasion n'a pas été évoqué lors de la réforme du droit de la concurrence par la loi DDA-DUE de 2020 et n'était pas prévisible avant l'adoption du nouveau communiqué sanction. De plus, le texte instaure une fourchette de sanctions, ce qui constitue, selon la jurisprudence, un cas d'imprévisibilité qui s'oppose à la rétroactivité. De même, l'aggravation de 0,5 à 1 du coefficient de durée n'a jamais été envisagé lors des réformes législatives du droit français de la concurrence, alors que le choix d'un coefficient de 0,5 en 2011 était en contradiction de celui retenu en droit européen et manifestait une autonomie revendiquée du droit français dont l'abandon n'était pas prévisible. Il faut ensuite s'opposer à toute application rétroactive en épuisant les voies de recours. Le combat contre la rétroactivité qui porte atteinte à un principe essentiel de notre droit doit être général et absolu. Il convient, en cas de refus de reconnaissance de la non-rétroactivité, de faire valoir l'illégalité de la décision, en appel et en cassation, ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. De même, il faut s'opposer aux lois rétroactives de nature mixte qui régissent la procédure tout en rendant la sanction plus sévère, ainsi qu'à la suppression par la loi DDADUE du plafond de sanction en cas de recours à la procédure simplifiée ou encore à la rétroactivité de la suppression du critère du dommage en économie. Le second combat consiste à lutter contre la rétroactivité des nouvelles règles de 2014 et 2017 en matière de dommages d'intérêt. Il faut s'opposer à toute demande de rétroactivité directe des nouvelles règles. La non-rétroactivité des nouvelles règles d'indemnisation s'impose tant en vertu du droit commun que de la directive de 2014, qui pose un principe de non-rétroactivité de ces dispositions substantielles. Ce principe a été rappelé par l'ordonnance de transposition de 2017 et confirmé par la jurisprudence européenne. Il faut également s'opposer à tout contournement de la non-rétroactivité sous couvert d'effectivité du droit européen ou d'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau. Les demandeurs de dommages d'intérêt ne sauraient contourner la non-rétroactivité en prétendant que le droit antérieur empêcherait leur indemnisation. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une impossibilité d'indemnisation que cette exception peut jouer. Or, le droit français antérieur permet l'indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Il doit d'autant plus en être ainsi que le principe d'effectivité ne peut porter atteinte aux principes généraux du droit dont fait partie la non-rétroactivité. Les mêmes principes impliquent qu'il n'est pas possible de contourner la non-rétroactivité sous prétexte d'interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau. L'interprétation devant respecter le principe de la non-rétroactivité et ne pouvant s'appliquer contra legem.